caricature. C'est une autre forme d'art aussi, hein, représentative. Et comme on en a parlé pour les caricatures après l'affaire de Charlie Hebdo concernant le prophète Mahomet, est-ce qu'il y a des caricatures du Christ? Est-ce que ça est, comment ça a été reçu?
Et je vais même vous étonner. Je vais même vous étonner. Les premiers.
Ah oui. Voilà, comme ça. Bon. Les premiers qui ont, dans le christianisme, qui ont vraiment caricaturé, alors en fait c'est moins le Christ, mais qui ont utilisé le genre caricature, c'est à la Réforme, la Réforme luthérienne, où pour ridiculiser le pape, les évêques, les messes, etc., alors il y a des trucs, on tombait même dans le scatologique, hein. C'est vraiment assez... assez hard, hein, des images. Alors il y a eu des caricatures qui visaient à ridiculiser celui qu'on combattait, alors, le pape en diable, en cochon, en tout ce que vous voulez. Et du coup, les milieux catholiques ont fait des contre-caricatures où alors c'était Luther, Calvin qui était caricaturé dans tous les. Alors le Christ, il échappait quand même un petit peu à ça. Hein, voilà, le Christ, il était un petit peu au-delà de ces plus que débat, de ces agressions confessionnelles par dessin interposé. Mais si, au XIXe siècle, il y a eu des caricatures du Christ, alors un peu dans les milieux anticléricaux. Hein, le Christ, c'est aussi l'Église, donc à travers le Christ, c'est l'Église qu'on va caricaturer. Donc on a. Mais effectivement, c'est plus les représentants de l'Église qui sont caricaturés que le Christ lui-même. Voilà.
Plutôt l'institution église.
Voilà, ou les chrétiens, ou ceux qui se disent, etc. Le Christ, maintenant, voilà, il faudrait que je recherche un peu.
Oui, je sais que après l'affaire de Charlie Hebdo, il y avait donc le dessinateur survivant avait fait une caricature du Christ pour montrer que,
ah oui, bon,
que là c'était politique.
Voilà, qui attaquait très régulièrement le christianisme, qui doit l'attaquer encore d'ailleurs. Alors là, oui, rien n'échappe à la plume de ces dessinateurs. Oui, oui, qu'on peut rigoler sur nous-mêmes et se moquer de nous et se. Oui, que c'est pas. Oui, tout à fait.
D'autres questions?
Oui.
Vous avez parlé de quand l'art contemporain s'inspire du Christ. Vous avez dit que les artistes ont besoin de leur liberté de création. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les églises, c'est-à-dire catholiques,
oui,
notamment, mais peut-être aussi, reconnaissent ou acceptent l'art contemporain qui s'inspire du Christ.
Ah,
quel dialogue il y a entre, par exemple, ce que vous aimez comme exemple, comme présentation, et une écoute des églises.
Oui, alors là, vous touchez le doigt un problème assez complexe. Et c'est d'ailleurs dans ce but que cet institut, l'Institut d'art, dans le cadre de l'Institut catholique de Paris, a été créé. C'était justement pour essayer de combler ce fossé énorme. Hein, immense, entre d'un côté l'Église, qui a pendant très longtemps d'ailleurs compris son rôle au niveau des arts comme c'est elle qui dit aux artistes qu'il fallait qu'ils fassent. Hein, voilà. Voilà, nous, c'était aussi lié au mécénat, bien sûr, hein, parce que tant que l'Église était la mécène des arts, elle donnait l'argent, mais en même temps, elle dit, il faut faire ceci, il faut comme ça, et puis ça nous plaît pas. Ça a duré très longtemps. Après, l'Église n'a plus été la mécène des arts. Donc, puisque les artistes se sont émancipés et ont été, donc il y a eu tout le mouvement des avant-gardes artistiques du début du XXe siècle qui ont rejeté tout support institutionnel, hein, que ce soit l'Église ou même l'État, ou l'éducation, etc., en disant, voilà, on revendique une... Bon, ça a commencé avec les mouvements surréalisme, le mouvement Dada, etc., et on veut même choquer pour montrer qu'on est libre et que, on a personne à nous dire ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire et comment on doit le faire, etc. Donc, il y a eu ce fossé. Un des exemples le plus important de ce fossé, c'est le Christ d'Assis, Donc ça, je ne voulais pas montrer, parce que je vous ai montré aucune réalisation en contexte d'église, c'est-à-dire des œuvres qui sont finalement arrivées dans des églises. Il y en a quand même quelques-unes, des œuvres contemporaines, hein, pas énormément, il y en a quelques-unes. Et, ça vous dit quelque chose, le Christ d'Assis ou pas? Non, bah, je vais le dire très rapidement. Donc l'église d'Assis, donc c'est le plateau d'Assis. Notre-Dame de toute grâce, hein, qui était donc une église qui a été construite par Novarina, l'architecte suisse, et c'est le père Couturier, Alain-Marie Couturier, qui était un dominicain passionné d'art, artiste lui-même, à qui on a confié enfin la charge de trouver des artistes pour décorer extérieurement, intérieurement l'église. Et il a eu une intuition géniale, mais on était dans les années 1950, il a dit, mais je ne vais pas d'abord chercher des artistes chrétiens. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire qu'un artiste chrétien? On ne va pas parler d'un chirurgien chrétien ou d'un architecte chrétien, on est artiste ou on ne l'est pas. Et il dit, pour l'Église, l'Église a besoin des meilleurs artistes. Et les meilleurs artistes de son époque, c'était, il n'y avait aucun chrétien. Hein. Ils étaient tous d'ailleurs plus ou moins affiliés. Alors il a confié la fresque extérieure à Fernand Léger, qui était membre du Parti communiste, etc. Alors évidemment, ça a fait comment ça, un dominicain qui va travailler avec ces gens-là. Et il a, pour le Christ qui se trouve à l'intérieur, il a demandé à Germaine Richier, qui est une artiste femme, hein, qui a fait ce Christ défiguré, s'inspirer un tout petit peu des on n'était pas loin après la fin de la guerre, des gens qui sortaient des camps de concentration, etc. Et elle a fait ce Christ d'Assis, une petite sculpture qui n'est pas très grande. Voilà, et ça a été inauguré, l'église a été inaugurée par l'évêque d'Annecy, il n'y a pas eu de problème. Et voilà qu'un groupe de théologiens de la faculté d'Angers, la faculté catholique d'Angers, sans même se déplacer sur place, ont vu une mauvaise photo de et ont dit c'est un sacrilège, etc. On fait une campagne de dénigrement. C'est horrible, c'est une insulte à l'honneur du Christ que de le représenter sans visage, aussi décharné, etc. Et qu'on exigeait qu'on fasse une telle campagne, c'est arrivé jusqu'au Vatican. Et le Vatican a fait enlever, hein, a fait retirer ce fameux Christ d'Assis. Et il est resté, je crois, 17 ans au purgatoire dans la sacristie. Voilà. Après il est revenu. Il a fini par revenir, parce que vraiment, en 17 ans quand même, la conscience a évolué. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une église qui a été faite pour les malades, sur le plateau d'Assis, c'est des malades qui souffraient de problèmes pulmonaires, poumons, etc. Et en fait, ces malades, l'artiste avait fait ça pour eux, en fait. C'est un Christ qui il a l'air de s'étouffer, il a plus de poumons, il est décharné, etc. L'artiste qui était athée, hein, Germaine Richier, avait lu les prophéties du serviteur souffrant d'Ésaïe. Hein, il n'avait ni forme, ni éclat, etc. Donc elle avait lu la Bible, elle avait écouté les gens qui venaient prier ça, donc elle avait fait un truc remarquable, exactement, à la fois au niveau artistique, mais théologiquement très signifiant, et voilà que des théologiens qui ont rien compris, ni à l'art, ni à rien, ont crié au scandale. Donc vous voyez, c'était... Alors là, vraiment, l'Église, elle a fait preuve vraiment de son ignorance, hein, qu'elle connaissait rien à l'art. Et, alors, heureusement qu'on a l'abbé Couturier, parce que c'était vraiment un prophète. Hein. Lui, il a été dénigré aussi, il a créé cette revue qui s'appelait Art Sacré, qui a été dénoncée. Enfin, voilà, il a tenu bon. Et après, il y a toujours eu quand même un petit groupe de gens qui ont dit ben, il faut quand même aller sortir de cette ignorance et puis de cet esprit de supériorité. L'Église doit s'ouvrir au monde de l'art et même de l'art contemporain, de l'art d'aujourd'hui. Et puis même si c'est des formes qui choquent, c'est nouveau. Ben, voilà. Et aujourd'hui, parce que moi je travaille aussi avec des gens qui sont responsables des ce qu'on appelle Beni Culturali au Vatican, donc ils sont vraiment l'Église est divisée. Il y a ceux qui pensent que effectivement l'Église elle a déjà fait un chemin, un peu de conversion, si vous voulez, et qu'elle est beaucoup plus à l'écoute aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 20 ans ou il y a 30 ans, ou à l'époque du père Couturier, plus ouverte justement à ses créations contemporaines. Mais c'est quand même un peu une minorité. Mais elle est présente, hein. Il y a des choses assez extraordinaires qui se font au Bernardin à Paris, dans certains lieux de création. Moi, je pourrais vous en citer des dizaines, hein, à Milan, en Italie, etc. En Allemagne, à Cologne. Cologne a été aussi un grand lieu où l'Église catholique s'est ouverte à la création contemporaine. C'est toujours sur une personne, hein. Là, c'était un jésuite qui s'appelle, il est encore en vie d'ailleurs, un très vieux monsieur, Friedel Menekes, qui a eu aussi l'intuition qu'il fallait s'ouvrir au monde des arts et donc aller voir les plus grands artistes et leur demander s'ils étaient d'accord de collaborer. Alors évidemment, la première chose que posent des artistes en disant, ben, oui, mais surtout, ne nous dites pas ce qu'on doit faire. Faites-nous confiance et même si ça va vous choquer, il faut vous accepter d'être choqué. Alors là, ça va dépendre de l'évêque, du prêtre, de l'interlocuteur qu'il y a. Alors on a à la fois des lieux, des choses extraordinaires, hein, c'est l'objet de notre conférence, hein, c'est pas tout, mais j'ai des tas d'exemples à vous montrer, qui peut être de l'art pérenne, c'est-à-dire des choses qui sont in situ puis qui ne bougent pas, ou alors des choses qui durent le temps d'une exposition. Et puis vous avez, hélas, le mouvement inverse, avec des et même très, très conservateur, où non seulement il y a un rejet total de l'art contemporain, mais il faut retrouver un soi-disant art chrétien, qui n'a d'ailleurs jamais existé, sinon en Orient. Alors maintenant, il y a tout ce mouvement d'un art byzantin ou néo-byzantin, où il faut retrouver des fonds dorés, enfin un peu comme les icônes orthodoxes, avec un jésuite, alors là j'ai le nom m'échappe, là, qui a décoré la chapelle privée du pape, enfin l'ancien, le pape Benoît XVI. Benoît XVI, c'est une horreur, hein, d'un point de vue artistique, c'est une horreur. Mais il a décoré la chapelle privée de Benoît XVI, alors tout le monde s'est mis à faire comme lui, du néo-byzantin. Il a eu ses devoirs. Bon, maintenant, malheureusement pour lui et peut-être heureusement pour l'art, on a découvert qu'en plus il était plus ou moins pédophile. Donc c'est encore un qui est sur la liste. Bon, son nom m'échappe, mais bon, peut-être heureusement. Et donc du coup, voilà. Enfin, je vous donne un petit peu l'état. Et c'est vraiment un lieu de conflit. Hein, par exemple, pour la réfection pour Notre-Dame. Alors ça, c'est vraiment de l'art en contexte liturgique, en contexte d'église. À Notre-Dame, il y a eu un conflit assez... il y a toujours, hein, oui.
C'est pas réglé, le problème des vitraux.
Alors, il y a les vitraux, mais il y a aussi tout le mobilier liturgique, etc. Enfin, je sais qu'il y avait, ceux qui défendaient en disant, ben, utilisons cette opportunité pour introduire des formes un peu nouvelles, etc. Et d'autres qui voulaient dans du néo, alors néo-byzantin, néo-gothique, néo-rome, tout ce que vous voulez. Et je crois que, hélas, c'est plutôt la partie conservateur qui risque de l'emporter. Aujourd'hui, les rapports de force sont plutôt dans ce sens-là. Mais il y a débat, vous voyez, c'est... Oui.
On a quand même eu la chance, nous, d'avoir Audincourt avec les
bah oui, vous êtes assez...
C'est le même architecte
oui,
que Assis, hein.
Donc Novarina. Valère Novarina. Oui,
c'est Novarina, ouais. Et c'était...
Couturier, Alain-Marie Couturier, oui, qui était... Mais d'ailleurs, le diocèse, alors, c'est le diocèse de Belfort.
Oui, ils sont spécialistes, au fond.
Ah bon, vous avez des spécialistes,
là. Hein. Ah, tu peux dire qu'il y a peut-être une exposition.
Oui, alors, actuellement, il y a une exposition.
Où ça?
Venez
partager, là.
Oui, c'est le chemin du Verbe.
Oui.
Et dialogue avec les vitraux de Fernand-Léger.
Avec Claudine Tamborini.
Voilà.
À Audincourt.
Oui, ça a commencé, je crois, le 19, hein, c'est ça.
Ça commence
jusqu'au 10 octobre, hein, c'est ça.
Voilà. Ben voilà, très bien.
Et puis donc, je voulais revenir à Mosaïque de Basel, qui est après qu'un objet de contestation, qui s'est allé jusqu'à au Vatican, et que Monsieur Constantini a répondu, en disant que eux savaient ce qu'il fallait faire.
Ouais. Donc ça a été moins dramatique qu'à Assis.
C'était
un peu le même.
Mais Basel, qui veut faire le baptistère, a d'abord refusé parce qu'il a dit la mosaïque a fait tellement d'histoires que j'en ai appris.
Ah oui. Non, mais il y a des.
Par contre, à Haute-Chandelle, il y a un chemin de croix et qui a été retiré. Qui était retiré parce que les gens avaient les visages évacués, c'était quelqu'un qui revenait des camps de concentration.
Ah oui.
Donc forcément, ils n'avaient pas un visage de lui. Donc, le gag, c'est que ça a été mis à la sacristie.
Ah ben.
Et tous les jeunes chrétiens, tous les gens qui étaient catéchisés, étaient catéchisés à la sacristie à côté du chemin.
Ah oui, alors du coup. Donc, mais je sais que ici, la Prédodincourt et puis Belfort, etc., il y a eu, parce qu'il y avait ces commissions d'art sacré, hein, je sais pas, elles existent toujours d'ailleurs, je crois. Hein. Et il y a eu une époque où c'était cité en exemple, hein, c'était en cité en exemple, c'était le lieu où il y avait justement.
Les vitraux de Manassé au Brézeux,
oui, voilà.
Montant à côté de Mèche, il y a les vitraux de Manassé aussi.
Oui.
Ça a été un des premiers aussi.
Ça a été par la même commission, quasiment les mêmes qui ont validé Rouchamp.
Oui, oui, donc c'était... Et tout ça, c'est le même diocèse.
C'était
Besançon. Ah oui, à l'époque, après, il y a eu cette
nouvelle. Dans les années 50, il y a eu une conservatrice du musée, dans la commission d'art sacré, qui était une dame en l'occurrence, quelque chose d'absolument sexy.
Ah oui. Mais si vous voulez, bon, il y a pas mal d'historiens qui travaillent maintenant sur ces... je sais que ouais, ce fameux diocèse de Besançon est souvent cité en exemple. On dit, ah, voilà, il y a quand même des lieux où il y avait un peu de créativité, etc.
Mais... Il faut savoir quand on se dit que vous avez décédé, il a été remplacé par mon collègue Dubois, et il a eu comme mission partout de nettoyer la petite place là et de supprimer ses presque
un petit peu... Ah oui, trop... Ben oui, c'est ça, c'est un peu le problème, hein. Ça dépend beaucoup des... Alors par exemple, pour le Vatican, il y a un monseigneur Ravazzi qui était chargé de la culture, etc. Et un homme qui était aussi un très bon bibliste, hein, qui était un bibliste hébraïsant, enfin un homme très érudit. Et moi je l'écoutais à Milan. Et lui, il était convaincu qu'il fallait que l'Église, italienne, etc., s'ouvre à des modes d'expression qu'elle avait toujours refusé. Hein. Et il a réussi à faire accepter, donc je l'ai mentionné à la Biennale de Venise, il y a 4 ans, je crois, ou puisqu'il est bien toutes les 2 ans, que le Vatican ait son pavillon. Alors qu'il y avait le pavillon italien, il y a le pavillon français, il n'y avait jamais le Vatican. Alors il y avait le pavillon du Vatican, alors tout le monde s'attendait à voir des quoi des... Non, rien, c'était absolument pas religieux. Enfin, c'était, ça l'était ben, implicitement, un peu comme ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire que c'était une installation alors, vraiment très, très avant-gardiste, et quand vous creusiez, vous voyez bien qu'il y avait un fondement théologique très, très solide, mais que ça n'apparaissait pas du tout. Quand vous le voyez, on pouvait avoir une autre lecture de la création, simplement comme une œuvre d'art contemporaine, etc. Donc c'était vraiment très subtil. Et puis ça, c'était il y a 4 ans. La Biennale, il y a 2 ans, il n'y a plus de Vatican, il n'était plus là. Alors là, moi j'y étais, alors j'étais très déçu. J'ai dit, ah ben, je voulais voir la suite, et puis il n'y a plus rien. Alors j'ai dit, bon, alors on m'a dit, oui, ben justement, je pense que son œuvre, ce qu'il avait mis en place 2 ans avant, ça avait été contesté parce que des catholiques ne voyaient aucun signe religieux là-dedans. On disait, alors qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, il y a aussi des problèmes de qui finance tout ça. Et cette année, puisque c'est de nouveau la Biennale, mais voilà, je pense que malheureusement, je n'aurai pas l'occasion d'y aller, mais j'ai des étudiants qui m'ont rapporté qu'il y a de nouveau un pavillon du Vatican, et il paraît qu'ils ont fait quelque chose vraiment extraordinaire, c'est-à-dire qu'une installation d'art dans une prison. Il faut franchir les portes de la prison, une prison où il y a encore des prisonniers, hein. Et donc, si vous voulez aller la voir, il faut vous faire inscrire, etc. Nice, etc. Donc, j'ai des étudiants qui l'ont eu, qui me disent c'est absolument extraordinaire. Et donc, vous voyez qu'il y a des rebondissements. Hein. C'est pas parce qu'une année, ça n'a pas marché. Que... Donc, il y a aussi de la créativité. Il y a des gens qui veulent se saisir de ces expressions artistiques. Et puis, il y a l'inverse. Bon, je vous donne un autre exemple. À Paris, à Saint-Méry, donc l'église qui est juste à côté du Centre Pompidou, il y a eu tout un groupe qui avait transformé quasiment toutes les chapelles latérales en ateliers d'artistes. Hein, voilà, donc vous y alliez, alors il y avait la messe, etc., l'activité cultuelle, mais tout autour, il y avait des artistes qui étaient là, qui étaient ravis, on leur donne un lieu en plein centre de Paris, etc., et enfin, il y avait très souvent des expositions. Il y a une époque où il y avait même donc un prêtre qui avait été choisi, il était lui-même artiste, donc visiblement l'archevêque était parti pour le projet. Et puis, alors je ne sais pas quel changement d'archevêque, mais il y en a un qui est arrivé, tout est fermé maintenant. Et donc le groupe de laïcs qui soutenait ce projet, ils se sont pas découragés, ils disent bon maintenant on va faire un Saint-Méry hors les murs. Hors les murs, c'est-à-dire on nous a fermé, ben, on existe toujours, mais on n'est plus dans l'église, mais on existe que c'est hors les murs. Donc il y a quand même des tensions hein, assez. Et c'est évidemment beaucoup en fonction des acteurs, des responsables institutionnels qui sont là, est-ce qu'ils sont sensibles, un, au langage de l'art, et que le langage de l'art, c'est pas l'art du Moyen-Âge, hein, c'est pas la Renaissance, c'est l'art d'aujourd'hui. Et l'art d'aujourd'hui, ben, il fonctionne sur d'autres paramètres. Quand on va voir une pièce de théâtre aujourd'hui, c'est pas forcément du Molière, hein, qu'on va voir, donc, voilà.
Oui, oui mais là, on va prendre trois questions.
Oui.
Oui, mais ce n'était pas une question. Je voulais savoir, là, dans les œuvres qui ont posé problème, il y en a qui ont disparu ou qui ont été détruites, ou elles ont finalement toutes réapparues plus ou moins tard.
Oui, la mosaïque est toujours en place, oui.
Oui.
Ou en inauguration.
Mais le Orchamps-Vaine.
Orchamps-Vaine, ça a été remis en place.
Ça a été remis, c'est avec
Orchamps-Vaine, on peut le voir.
Oui, il y en a eu d'autres, non ?
On peut le visiter.
Je ne parle pas de connaissance.
Jean-Pierre, tu lèves la parole.
Oui, parce que tu évoquais un institut où dialoguaient des artistes et des théologiens.
Oui, c'est à Paris.
Ma question, c'est ces artistes qui finalement sont sensibles à cette figure christique qui est l'humanité du Christ. Ouais. Est-ce que nous, maintenant, est-ce que ça se répercute sur les théologiens et sur leur théologie?
Je suis frappé, je reviens
d'Issenheim, de voir le retable d'Issenheim, et je suis frappé, on peut lire le retable, en tout cas avec Grunenwald, comme non pas le Christ, mais l'homme crucifié, le paysan qui a été... déjà Grunenwald représentait plus l'homme que le Christ lui-même, enfin.
La souffrance humaine. Une première question, Joël.
Oui, concernant le dialogue entre l'Église et la culture, si je puis dire, les artistes, j'ai remarqué quand même que dans beaucoup de cathédrales aujourd'hui, il y a des vitraux qui sont créés avec des artistes contemporains. Alors, j'ai été frappé, c'est quand même assez fréquent. Hein.
Oui, alors, voilà, je vais peut-être répondre d'abord à la dernière et puis à celle-là. Là. Alors, justement, là, c'est une très bonne observation. Les vitraux des cathédrales constituent un exemple à part, tout simplement parce que c'est des commandes d'État. C'est des commandes d'État. Les cathédrales appartiennent à l'État. Les cathédrales appartiennent à l'État, donc c'est l'État qui est maître d'œuvre. Et donc, c'est effectivement, s'il y a vraiment un endroit où il y a des créations vraiment contemporaines, c'est dans le vitrail. Alors, l'exemple le plus connu qu'on cite, c'est les cathédrales, ou donc les grands monastères, grandes abbayes, enfin Conques. À Conques, avec les vitraux de Soulages. Hein, où il y a, je crois, 135 vitraux de Soulages. Hein, Soulages, c'est l'homme du noir, hein, l'outre noir, mais là, c'est que du blanc. Enfin, c'est un blanc translucide, etc., mais il n'y a aucune forme, il n'y a rien, c'est que la matière qui fait le vitrail, c'est tout. Et les barlotières, et comme ça. Et c'était une commande d'État. Et donc, l'évêque de Rodez a été furieux, mais on est passé outre, hein. De toute façon, c'est l'État qui finançait, etc. Et il y a d'autres exemples comme ça. Donc, on a des vitraux très, très contemporains, mais les commissions diocésaines sont un peu court-circuitées. Ou alors, donc, ce qui explique que voilà, là, il y a un lieu de création assez... et c'est vraiment le vitrail. Alors, sur cette question... C'était quoi la question? Ah oui, la question... Là, alors, ce qu'on peut dire, c'est que ces artistes qui... et ça, c'est assez étonnant, hein. Il y a des artistes qui sont dans la création et qui, à un moment, spontanément, alors soit revisitent des figures chrétiennes, soit se mettent un peu à se poser des questions religieuses, hein, et c'est pour ça qu'ils viennent nous voir dans l'Institut, etc. Qui font des démarches, j'en connais une même d'ailleurs qui est maintenant pasteur, c'est-à-dire qu'elle n'était même pas chrétienne. Hein. Elle a voulu en savoir plus, aucune éducation religieuse, rien du tout, mais c'est sa création qui l'a poussée à s'ouvrir. Alors, au début, ils disent le mystère, la transcendance, l'au-delà, quelque chose d'autre, etc. Puis, alors, à un moment, on va rencontrer un théologien. Alors, bon, moi, je suis souvent sollicité, parce que j'ai un peu cette double formation théologique artistique. Et puis, à un moment, ils décident de prendre un cours de théologie pour savoir plus, puis connaître la Bible. On ne connaît rien, ils ne connaissent rien, etc. Et il y en a une qui, à un moment, elle dit, mais... En fait, je suis dans la foi, je suis plus simplement, c'est pas culturellement que cette figure critique m'intéresse, c'est vraiment, c'est plus, j'ai dépassé le niveau culturel, c'est, voilà, je me sens lié à cette personne, et donc elle a décidé de devenir chrétienne, donc vraiment un acte de foi, et puis je l'ai retrouvée dans les bancs de la faculté, bon c'était à Paris, c'était pas à Strasbourg, à Paris, et puis maintenant elle est pasteur. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui est passé
toujours
de...
Toujours à sens unique, c'est-à-dire dans l'autre sens...
Ouais.
Récupèrent ça et se disent peut-être qu'il y a à travailler sur
cette question
au niveau théologique,
oui,
au niveau de l'humanité du Christ, au niveau
oui. Un peu difficile. C'est un peu difficile. Alors, non, il y a quand même une espèce de résistance. Hein. Disons, au niveau protestant, c'est même, il y a une double résistance, surtout quand on vient des milieux réformés, où il y a l'interdit de l'image, quand même, l'interdit de la représentation, qui a été, pour Calvin, c'est un absolu. Hein. Tu ne te feras pas d'image, c'est vraiment, c'est même l'image mentale. Hein. Ça, Calvin et Luther étaient tout à fait dans des lignes opposées, parce que pour Luther, il avait besoin de voir une image du Christ, et de le penser en image, alors que Luther, c'était même d'avoir une image intérieure, c'était déjà dans l'idolâtrie. Calvin, oui. Donc voilà, là on a aussi des traditions qui sont un peu difficiles. Alors moi je peux vous raconter des tas de. Parce que j'ai fait beaucoup de conférences là-dessus. On est venu un jour, par exemple, un prof de Nice, un prof de lettres, qui vient me voir en disant j'ai une question à vous poser. Est-ce que je peux aller voir des expositions? Je suis très croyant, je suis engagé dans la paroisse, Il me dit, parce que moi j'adore l'art, j'adore les expositions, mais je me sens toujours en faute quand je suis quand je regarde des tableaux. Est-ce que je, quelque part, je suis... Je dis, ben non, mais... Vous voyez, le catéchisme réformé mal enseigné, hein, ça a été quand même terrible. Hein, c'était toute forme, toute représentation était déjà... on était déjà dans l'idolâtrie. Hein, et ça laissait des traces. Ça, c'est, alors... Moi, ce que je dis, c'est, ben, ça peut être aussi une chance parce qu'aujourd'hui, l'art, il est très, très largement aniconique, ce qu'on appelle aniconique, c'est-à-dire qu'il ne représente rien. Hein, c'est des... Alors là, pour le coup, c'est une libération parce que il n'y a pas de figure, il n'y a pas de forme, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Hein, des taches de couleurs, etc. J'imagine que Calvin, si on lui avait montré des taches de couleurs, c'est pas une idole puisqu'on voit pas d'animal, on voit pas de forme humaine, etc. Enfin, oui, c'est une problématique assez complexe, hein, mais il y a encore des... Voilà, on est encore... Je pense qu'au niveau du protestantisme, on est encore en train de se battre par rapport à nos propres...
Et comme tu parlais de prophètes, là, de personnes qui sont comme des prophètes, on ne sait pas, nous, entendre ces prophètes-là.
Ah oui, non, mais...
Il y a encore un petit problème au niveau de...
Oui, et... non, mais ça c'est clair qu'on a encore du chemin à faire, hein, mais... En même temps, il y a aussi des... voilà, on a comme étudiante à la faculté une Polonaise qui est devenue protestante et qui fait de la sculpture, hein, qui est assez connue même, qui expose dans des mondiers, elle s'inscrit en théologie, alors qu'elle est sculpteur. Donc, je ne sais pas si tu l'avais rencontrée. Hein,
Magnifique.
Bon, ben, il y a des gens qui, pour lequel ce dialogue entre voilà, la plasticité, la forme et ce message, hein, le message christique ou biblique plus largement, il est... Alors au niveau de la théologie, je dis bien la théologie, pas de ce qu'en font les acteurs d'église, qu'ils soient pasteurs ou acteurs, etc. Au niveau de la théologie, alors il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits. Hein. Bon, je dis, bon, j'en ai écrit quelques-uns, mais il y en a aussi, vous allez dans le domaine germanique, il y a une littérature énorme. Donc c'est quand même un thème qui questionne la théologie, auquel il y a des gens. Alors est-ce que après ça passe?
Voilà, très prosaïquement.
Ouais, alors ça c'est.
Oui, ça passe dans le message.
Ça c'est un peu un autre problème. Hein. Après, c'est notre question. Hein. Nous on est un peu dans nos sphères, dans la recherche, etc. Après, qu'en font nos étudiants? Voilà, ça c'est... Oui.
On prend un dernier lot, Marie-Christine, et après...
Et voilà.
Moi, c'était une question un peu en marge. On parle beaucoup à l'heure actuelle de détruire des œuvres de gens pédophiles. Quel est le nom là de l'auteur qui faisait des mosaïques qui sont à Lourdes et je ne sais plus où.
Ah bah c'est celui que je nommais là, le jésuite.
Oui, non, c'est ça.
Non, attendez.
On prend la question de Marie-Christine. Oui.
Donc ma question, enfin, c'est est-ce qu'il est vraiment légitime de confondre ainsi l'œuvre et l'homme? Enfin, elle pourrait aussi se poser pour l'abbé Pierre d'ailleurs ou pour d'autres exemples. Hein, alors à un moment donné, pour l'abbé Pierre, on a dit oui, l'homme ne vaut rien, mais son œuvre, c'est formidable. Et pour l'artiste, on dit l'homme ne vaut rien, on va détruire son œuvre. Où est la cohérence?
Donc c'est la question, la deuxième.
Moi, je
reviens
à côté d'Angers, il y a une
église
où on a demandé à faire
Ben
Jérôme de faire
le
vitraux.
Oui. Voilà. Oui. C'est super quoi. Oui. À peu près tous les vitraux contemporains sont non figuratifs. Hein. Ah bah Kim Jong, non le père Kim là, Kim Jong, oui, je suis en train de terminer un ouvrage collectif sur ces vitraux. Là juste pour vous répondre à Kim Jong, c'est un Coréen qui est des éclats de lumière, c'est assez saisissant. Ce qu'on peut lui reprocher quand même, c'est que ça fait 20 ans qu'il fait exactement la même chose. Ça, c'est un petit peu le problème, il ne s'est pas tellement renouvelé dans son expression, et il inonde un tout petit peu le marché. Alors on a fait un colloque, il y avait un colloque à Luxembourg, il était d'ailleurs présent, donc voilà, je suis intervenu, pardon. Et voilà, ce qui est un peu gênant, c'est ça, c'est il a eu quelque part une espèce d'intuition, et alors maintenant il écrase tout le monde, hein. Il est dans tous les marchés, parce qu'il est, c'est le plus connu, et puis il a une fondation derrière elle qui a de l'argent, donc il y a aussi des questions financières, ce qui fait que, à Brioude par exemple, il y avait un concours d'artistes pour les vitraux, et nettement il y avait des artistes qui étaient beaucoup plus méritants que lui, plus créatifs, mais les gens ont tous choisi Kim parce que c'était la valeur sûre, si vous voulez. Et ça c'est quand même un peu gênant. Après, l'autre chose un peu gênante, c'est qu'il y a une théologie hyper conservatrice. Alors lui, l'Europe est déchristianisée, on est tous, il faut retrouver l'Europe chrétienne d'il y a 300 ans. Donc ça, c'est un petit peu embêtant parce que, donc son œuvre plastique, elle est assez, elle est non figurative, elle est assez moderniste, mais en fait, la théologie de l'homme, alors c'est un petit peu, on revient à vos questions, le rapport entre la personne, l'artiste et puis l'œuvre. D'ailleurs, j'ai retrouvé le nom de du jésuite, du Vatican là qui est maintenant sur la sellette, c'est Rupnik.
Oui, c'est ça.
Voilà, Rupnik. Alors on ne faisait que du Rupnik jusqu'à il y a quelques temps, parce que comme il avait fait la chapelle privée du pape, alors mais c'est des horreurs sans nom, quoi. Ça n'a aucune. Vous présentez ça dans les écoles d'art, etc. Les gens vous rigolent en disant c'est ça que vous appelez de l'art, c'est des mauvaises copies de bas de gamme, de choses éculées, etc. Alors si évidemment l'Église présente ça comme étant l'art du XXIe siècle, ben on se fait pas prendre au sérieux, hein. on n'est pas crédible. Et je veux dire, ça c'est quand même embêtant, parce que les églises, elles ont aussi une parole à dire dans la société, et si c'est sur des bases aussi faibles, on va vous dire, écoutez, si c'est ça qui veut reprendre votre message il vaut pas grand chose. Donc c'est quand même assez embêtant. Hein. À tel point, je vous fais rigoler, il y a un théologien catholique qui ne connaissait rien à l'art, parce qu'effectivement, il y a peu de théologiens qui s'intéressent à l'art d'un point de vue un peu vraiment professionnel, qui a fait une conférence, qui est au demeurant très bien, hein, je ne sais plus le sujet, mais il avait voulu agrémenter pour faire bien son discours par du visuel. Alors il nous a balancé du Rupnik tout le temps. Pendant tout le long de la conférence, alors un Rupnik par-ci, par-là, etc. Puis à la fin, je suis allé voir, je lui ai dit, tu connais cet autiste? Oh non, non, mais partout où je vais, dans les couvents, tout ça, il est là, donc c'est bien, tout le monde. Je lui ai dit, oui, mais attends, cet homme-là, il a des valeurs. Bon, d'abord, au niveau artistique, ça vaut pas grand-chose, mais sa théologie, elle dit exactement l'inverse de ce que vous avez dit pendant votre conférence, donc, parce que c'était un théologien ouvert. Hein, bon, c'est un petit peu embêtant quand même. Voilà. Mais je me suis rendu compte qu'il n'avait aucune culture artistique, aucune culture de l'image, alors que c'était un homme, évidemment, très érudit. Et c'est vraiment le problème. C'est que il n'y a pas, l'art ne fait pas partie n'a jamais été enseigné en théologie. Voilà, c'est pour ça que cette initiative qu'on a parlé. Alors sur votre question, moi j'ai pas de réponse, hein. C'est vraiment un débat Heidegger, qui est un des plus grands philosophes du XXe siècle, il était aussi inscrit au parti nazi, donc voilà, l'homme, l'œuvre, je sais pas,
En littérature, en littérature, si on supprime tous ceux qui ont eu des pratiques quelque peu bizarres, il ne reste rien. Enfin bon.
Bon, là, je vous laisse débattre. Hein, ça sort un peu de mon sujet. En tout cas, merci. Je trouve que j'ai un public vraiment très. Je sens tous très partie prenante de cette aventure, de cette réflexion collective. Hein, et je trouve, voilà.